Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Chen possédait peu de choses. D'abord un pousse-pousse en rotin qui était sa vraie richesse car il lui permettait de gagner de quoi s'acheter un bol de riz et quelquefois un petit pâté de viande au gingembre. Puis un grand chapeau qui lui servait aussi de parapluie. Et puis, en haut d'une colline dominant la baie de Hong Kong, une cabane de bambou. Une cabane, c'est beaucoup dire. La maison de Chen était faite de 3 planches et d'une brassée de feuillage. Mais elle était adossée au mur d'enceinte d'une belle propriété. De ce mur retombaient des branches de jasmin qui, au temps des fleurs, donnaient à Chen une ombre parfumé. Le génie du pousse-pousse de Jean-Côme Noguès, illustré par Anne Rombi. Ce conte philosophique à la saveur de la sagesse chinoise est en même temps un très beau livre, aux illustrations délicates et poétiques. Elles ont parfois les couleurs indécises du rêve, fondues dans un beige très doux. Mes portraits sont d'une finesse touchante. Le dessin minutieux nous rappelle la beauté des estampes. Des idéogrammes viennent parfaire l'illusion. Pourtant, il n'y a d'asiatique que l'inspiration dans cette histoire. Comme l'illustratrice, Jean-Côme Noguès, l'auteur, a magnifiquement réussi le pari de créer, à la manière d'eux, cet album dans l'esprit d'un conte chinois, avec tout le respect dû à son art et sa culture. Il nous propose plusieurs morales, toujours d'actualité. On ne gagne réellement rien sans effort. Et si les choses ont une valeur, l'amitié en a bien plus encore. Quand, après avoir conduit son pousse-pousse toute la journée dans les rues de la ville, Chen retrouve son ami Wang, le pêcheur au cormoran, il est heureux. Mais le cormoran vieillit. Il faut le remplacer. Incapable d'aider son ami à en acheter un autre, Chen rentre bien triste ce soir-là à la cabane. Il eut envie de cueillir un rameau de jasmin pour chasser l'impression de tristesse laissée par son ami. Chen escalada le mur et resta muet d'admiration devant ce qu'il découvrit. À ses pieds s'étendait un jardin merveilleux. Toutes les fleurs de l'Asie y mêlaient leurs couleurs. Des kiosques de porcelaine se reflétaient dans des pièces d'eau claire, bordées de sentiers recouverts d'un gravier blanc. Le garçon sauta à bas du mur et se risqua le long des pelouses où tombaient un à un des pétales de magnolia. Dans les kiosques, des mots de bienvenue étaient peints en rouge vif sur du papier de soie. Des mots qui offraient les gâteaux aux amandes et les confitures de roses et les liqueurs et les fruits servis dans des corbeilles d'argent sur des tables de lac. Chen goûta de ces douceurs délicieuses qui lui firent tourner la tête et puis il s'enfuit en courant. Dès lors, Chen rêve d'acquérir lui aussi des objets de luxe et de mener une autre vie, plus facile. L'occasion semble se présenter lorsqu'un jeune homme, extrêmement beau, bien que très frêle, parfaitement bien vêtu, lui fait signe d'approcher. Chen sent la bonne affaire, d'autant que la course jusqu'au port, tout en bas de la ville, promet de lui rapporter gros. Tout en tirant le pousse-pousse, il échafaude des plans et fait des calculs. Il était si absorbé dans ses pensées qu'il ne se rendit pas compte de la vitesse que prenait le pouce-pouce. Celui-ci semblait entraîné par un poids énorme, comme si une force irrésistible l'eût attiré. Chen ne s'en aperçut que trop tard. Quelle course il fit jusqu'au port! À grandes enjambées, il dévalait les ruelles en escalier, traversait les carrefours, effleurait à peine le sol. Derrière lui, ce n'était qu'étals renversés, passants jetés à terre et qui se relevaient en criant. Des gens le poursuivaient, lui lançaient des pierres et des injures. Le pouce-pouce, devenu infernal, finit tragiquement sa course dans le bassin du port, entraînant Chen dans l'eau épaisse comme dans un mauvais rêve. Revenu à la surface, il ne voit plus son client. Aucun des matelots du port ne l'a vu. Et pire, il l'accuse en riant d'avoir trop bu d'alcool de riz. Chen reprend honteusement son pouce-pouce et va retrouver son ami, tout affligé, le regard perdu. Son cormoran est mort. Fini les rêves égoïstes de richesse et de puissance. Il faut trouver un autre client. Pour Wang. Enfin, un homme, en apparence très lourd, mais à la robe richement brodée, le hèle et lui demande de le conduire tout en haut de la colline, lui promettant de le payer largement pour sa peine. Tout au long de sa course, Chen se répète « Wang sera content, Wang sera content !» Et il se concentre courageusement sur son effort, malgré la douleur dans ses maigres jarrets et les muscles de sa nuque que lui provoque le poids du client et la rudesse de la montée. Mais au bout du chemin, ce client va disparaître aussi soudainement que le premier. Et l'on finira par comprendre le sens du titre et la joie de Chen.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà deux titres pas très engageants. Ça pue, ça gratte. Deux romans recto verso aux éditions du Rouergue dans la collection Boomerang. Deux romans pour deux auteurs. Deux titres tête-bêche, deux points de vue qui se répondent et qui nous ramènent dans l'univers de la correspondance scolaire, qui cette fois va devoir déboucher sur un cadeau fabriqué par vos soins, a ajouté le prof de français. Chacun des deux correspondants va devoir se plier à cette injonction avec plus ou moins de bonheur, en fait, surtout pour son correspondant. Donc, de récits courts, pleins d'humour, pour les 8-9 ans. Allez, je vous lis le début de « Ça pue » de Gilles Habier. J'aurais dû me fier à ma première impression et jeter son cadeau à la poubelle, au lieu d'écouter mon père. Il a fabriqué lui-même, il a dû y passer du temps. Oui, et alors ? Parce qu'il habite Marseille ? Il se croit obligé de m'envoyer du savon. Ce n'est pas parce que je suis bordelaise que je lui ai préparé des cannelés, notre spécialité. Si encore il avait triché et qu'il avait acheté son savon liquide au lieu de le fabriquer lui-même, peut-être que je ne ressemblerais pas à un homard qu'on vient d'ébouillanter. Qu'est-ce qui m'a pris de l'étaler sur la peau? On aurait dit du lait trop concentré, couleur bouse de vache, odeur qui sent les pieds après 5 heures de randonnée. Évidemment que ça allait me donner des plaques rouges sur le corps. Bref, pour me venger, j'ai cherché l'objet parfaitement diabolique, celui qui provoquerait les mêmes plaques sur la peau de Matisse que celles qui m'a refilées et qui ont du mal à partir. J'ai beau me tartiner de crème hydratante 3 fois par jour, je reste rouge comme du piment pilé. Si ça se trouve, il a mis un produit dangereux dans son savon. Exprès. Donc, je réfléchis et très vite, je pense à un pull en laine. Moi, je les supporte pas. Dès que j'en enfile un, ça me gratte, j'étouffe. Et bienvenue les plaques rouges. Donc voilà la première approche. Et voici un aperçu de la réponse de son correspondant. J'ai failli faire un arrêt cardiaque lorsque j'ai ouvert mon colis. Mais quelle horreur ! Un tricot vert avec des rayures rouges au niveau des coudes. On dirait une relique de grand-mère. Un pull en grosse laine qui gratte en plus. Tu l'enfiles et tu te changes en sapin de Noël. Essaie-le au moins, insistait ma mère, impressionnée par tant de gentillesse et de persévérance contenue dans ce petit carton. Pas question, je ne porterai jamais ce truc. Elle y a passé du temps, tu sais, tricoter un pull, ça prend au moins 3 semaines. Tu te rends compte que ta correspondante t'a consacré 3 semaines de sa vie. C'est très généreux, je ne peux pas dire le contraire. Mais je me demande si ce n'est pas encore plus moche que généreux. Moi, je n'avais pas d'idée. Alors j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé un tuto pour fabriquer du savon. C'était trop compliqué à cause de la soude. Il paraît que c'est archi dangereux et mes parents m'ont interdit d'y toucher. Cherche autre chose de plus simple, m'a dit mon père. Le plus simple, c'était le savon liquide, puisqu'il peut se passer de soude. Alors, j'ai râpé du savon. 3 grammes à la minute, ça va pas vite. Ça fatigue, ça fait mal aux doigts. Et puis, j'ai mélangé cette poudre un peu collante avec de l'eau bouillante et de l'huile d'olive. Ensuite, j'ai reniflé le mélange. Ça sentait parfaitement le pot pourri, dans le premier sens du terme. Et là, j'ai vu noir. Je me suis dit que je ne pouvais pas offrir un savon qui pue. Et puis, j'ai pensé au parfum de ma mère. Ça tombe bien, il s'appelle Oser. J'en ai vaporisé une bonne dose dans ma potion. Finalement, ça sentait encore bizarre, mais c'était déjà plus respirable. Allez, entrez dans ces romans recto verso, pleins d'humour pour les 8-9 ans, et voyez ce que chacun fera du cadeau de son correspondant.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute !